Chapitre 4. Le lendemain, après que Julian eut signé un contrat à l'agence, Agatha décida de lancer ses jeunes assistants, Tony Gilmore et Simon Black, sur la piste de l'héritière disparue. La chaleur accablait toujours les Cotswolds. Des nuages noirs s'étaient amassés dans le ciel. Mais l'orage tant attendu n'avait toujours pas éclaté et un soleil rutilant continuait à cogner sur les habitants épuisés. Les gens s'habillaient aussi légèrement que possible, et des hommes, qui auraient gagné à rester vêtus, exhibaient des torses blancs comme la chair d'un poisson. Mrs. Blugsby appela Agatha pour lui annoncer que les restes du chevalier seraient restitués le lendemain à 5 heures et lui proposa de l'accompagner à la cérémonie. Agatha déclina l'invitation, mais elle transmit l'information à Tony et à Simon en leur suggérant de se rendre là-bas pour commencer à observer l'évêque. Le lendemain après-midi, Agatha en vint à se reprocher son manque de cran. La chaleur du restaurant avait emballé son imagination, rien de plus. Elle rappela donc Mrs. Blugsby en lui proposant de passer la prendre en voiture pour qu'elles assistent à la cérémonie. Ce jour-là, elle s'était affublée de ses « frusques de vieille », comme elle les appelait en secret. Ample tunique en lin bleu, sandales plates et pas de collant. « Tiens !» nota son ami en montant en voiture. « Je vois que James et Charles ne se joindront pas à nous. »«
Drôle de façon de présenter les choses, » répondit Agatha.
« On s'attend presque à les voir surgir avec une pancarte, on ne vient pas !»«
Et vous, » songea Mrs. Blugsby, « vous pourriez tout aussi bien brandir un panneau, il n'y aura personne là-bas qui mérite que je m'habille. Mais moi, qui suis une sainte, j'ai mis ma plus belle robe chemisier en coton. »
« Quelque chose vous amuse ?» lui demanda Agatha.
« Non, c'est juste cette chaleur qui me porte sur les nerfs, » prétexta Mrs. Blugsby, qui ne voulait pas lui avouer à quel point elle trouvait grotesque ses soudaines prétentions à la vertu. « Nous, les épouses de pasteurs, » se dit-elle avec tristesse, « nous n'avons pas grand-chose pour nous valoriser. »
« Je n'ai pas du tout envie de recroiser Hélène Toms, » fit Agatha. « Selon Scotland Yard, il existe un profil de victime. » Et cette femme entre tout à fait dans cette catégorie.
C'est un peu rude, je trouve. Notre cher évêque a semé la pagaille un peu partout. Hier soir, mon mari m'a dit que Peregrine Toms avait trouvé Dieu.
À vous entendre, on dirait qu'il a trouvé un collier abandonné. Il l'avait perdu, son Dieu ?
De toute évidence, oui. Battre sa femme, ce n'est pas tellement en accord avec le message des évangiles. Il doit prononcer un sermon tout à l'heure avant que l'évêque arrive pour l'inhumation.
« Vous auriez dû me prévenir !» lui reprocha Agatha. « Je pensais que ce serait expédié en 5 minutes et que je pourrais sortir m'en griller une et boire un verre dans le jardin du presbytère. Si je comprends bien, je vais être coincée dans une étuve à écouter jacasser l'autre raseur. »«
Mrs. Raisin, il faut que je vous dise... »«
Bon sang !» râla Agatha, empilant brutalement devant le presbytère. « Vous voulez bien m'appeler par mon prénom, oui ? Toutes ces salamalecs frisent le ridicule à la fin !»
Sans un mot, Mrs. Blugsby descendit de voiture et se dirigea vers l'église en regardant droit devant elle. Fixant le pare-brise d'un œil furibond, Agatha alluma une cigarette.
Elle se moquait éperdument d'avoir vexé sa meilleure amie. Qu'ils aillent tous se faire voir, après tout!
Elle laissa le contact afin de profiter de la climatisation. Tout à coup, elle vit Mrs. Blugsby ressortir de l'église, blanche comme un linge et soutenue par le sacristain. Elle coupa le moteur et se précipita à sa rencontre.
« Je suis désolée !» lui cria-t-elle. « Occupez-vous d'elle !» lui commanda Harry Bury. « Et faites-lui boire une tasse de thé. Il faut que je sonne les cloches, l'évêque va arriver !»
Passant un bras autour des épaules de son amie, Agatha la fit asseoir sur une dalle du cimetière.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»«
Je venais d'entrer dans l'église quand une grosse mouche s'est posée sur mon visage. Je me suis donné une claque sur la joue. Et là, j'ai vu que ma main était tachée de sang. La mouche avait dû se nourrir sur une carcasse d'animal. C'est le plus probable. Mais sur le moment, j'ai eu la conviction qu'il y avait un cadavre dans l'église.
Mais non, ce ne sont que des os. Eh merde, voilà les cloches qui sonnent.
Elles levèrent les yeux vers le clocher carré de style normand. Au-dessus du bâtiment, les nuages noirs moutonnaient de nouveau dans le ciel. Agatha était assise près de son amie, un bras autour de ses épaules frêles. « J'ai eu tort d'être aussi impolie tout à l'heure. Mais entre la chaleur et cet endroit...
Tiens, salut Tony.
Je croyais que vous ne veniez pas, répondit la jeune fille. Simon est avec moi.
Mrs. Blugsby, vous avez un problème? Vous êtes toute pâle. Je vais vous chercher à boire.
Tony traversa le cimetière en courant, vêtue d'un short bleu clair et d'un chemisier en mousseline bleue. Elle ne tarda pas à revenir avec un verre d'eau.
Une mouche s'est posée sur ma joue, expliqua l'épouse du pasteur. Je me suis donné une claque, et quand j'ai retiré ma main, elle était pleine de sang.
Le son de la cloche ténor appela la congrégation. L'intérieur de la vieille église normande n'avait rien de bien attrayant. Les soldats de Cromwell avaient pulvérisé tous les vitraux d'origine, que l'on avait remplacés par des vitrages ordinaires. Les statues des saints avaient été arrachées à leur socle, et il ne restait pour tout ornement qu'un magnifique autel en bois, peint dans des tons de vert et de doré. Alors que tout le monde s'installait, on entendit retentir le timbre strident d'une des sœurs du pain. Agatha les confondait toujours. Elles avaient exactement la même voix.
« Avec cette chaleur, je regrette que certains ne mesurent pas mieux l'importance de l'hygiène !»
Les mouches bourdonnaient bruyamment, et une odeur bizarre saturait l'atmosphère, douceâtre et écœurante. L'évêque fit alors son apparition flanqué de son doyen. Pour une fois, il avait renoncé au pourpre en faveur d'un vert céladon. En entendant le pasteur s'enflammer, l'assistance commença à gigoter nerveusement sur les inconfortables bancs de bois. Pérégrine déclara que l'exhumation de la dépouille du chevalier était un pur blasphème et que le châtiment divin s'abattrait sur eux tous. Agatha était sur le point de perdre patience lorsque Peter se leva et écarta Pérégrine sans plus de façon, tout en lui soufflant rageusement.
« Plongez-vous la tête dans l'eau glacée, ça vous remettra les idées en place. »
Là-dessus, il adressa un sourire à la modeste assemblée. Joignant les mains de concert, les Dupin rendirent un culte silencieux à sa beauté virile.
Nous voici réunis aujourd'hui.
Peter n'alla pas plus loin, car un fermier assis tout au fond de l'église se mit à crier.
La mort! Ça sent la mort ici! Et l'odeur vient de la crypte!
Je pense qu'il a raison, renchérit Agatha. Je sais reconnaître l'odeur de la mort.
Peter promena le regard sur le public et s'arrêta sur le sacristain. Comme Agatha l'apprendrait plus tard, il possédait une excellente mémoire.
« Mr. Bury, c'est bien ça? Si notre organiste veut bien nous jouer quelque chose dans l'intervalle, je propose que vous alliez jeter un coup d'œil afin de calmer les inquiétudes de tous. »
Il y avait dans l'assistance une journaliste du Mercer Telegraph, Peggy Comfort. À 21 ans, elle était bien résolue à devenir un reporter de choc. Et elle ne doutait pas que son rédacteur en chef, Charlie Soames, avait déjà reconnu son potentiel. Ce qu'elle ignorait, c'est que le dit Charlie avait vu dans sa forte poitrine et dans sa crinière blonde un potentiel d'un genre bien différent, mais tout à fait alléchant. Peggy s'éloigna discrètement en direction de la crypte. Au bas de l'escalier, elle découvrit le sacristain étendu près du tombeau ouvert du croisé. Sous la lumière jaune du plafonnier, son visage avait une teinte d'un bleu sinistre. Dans la même seconde, Peggy s'imagina à la télévision en train de raconter comment elle lui avait sauvé la vie. Alors qu'elle se penchait sur Harry, son regard tomba sur la sépulture. À l'intérieur, une masse répugnante de mouches grouillait sur un corps étendu. Peggy hurla si fort que son cri chassa dans le ciel orageux les oiseaux qui nichaient dans les arbres du cimetière. Elle aurait pu rivaliser avec Fay Wray, l'actrice du premier King Kong. Le lendemain, il y eut même des gens pour jurer avoir entendu ce terrible hurlement depuis Morton in Marsh, à 10 kilomètres de là. D'une voix de stentor, Peter arrêta les gens qui s'apprêtaient à descendre dans la crypte.
« C'est moi qui vais y aller. Mon doyen m'accompagne. Nous vous appellerons si nous avons besoin d'aide. »
Si les deux hommes avaient tourné la tête, ils auraient pu constater qu'Agatha, ses deux assistants et Mrs. Blugsby leur avaient emboîté le pas. Dans la crypte, Peggy avait cessé de crier pour vomir dans un coin. Le doyen, Donald Whitby, se penchait sur le corps recouvert de mouches.
« Je vais appeler une ambulance, mais je crois qu'il est déjà mort. Peter, vous arrivez à voir ce qui se cache sous les mouches ?»«
Je préfère attendre la police, cette odeur est atroce. Sortons d'ici pour téléphoner. »
Tony Gilmore tira de son sac un spray de répulsif pour en vaporiser le tombeau. Un lourd nuage de mouches repues s'en éleva aussitôt et l'une d'elles arracha un cri à Agatha en se glissant dans ses cheveux. Un vertige la saisit, et elle aurait volontiers fui cette scène macabre si elle n'avait pas tenu à cacher ses faiblesses devant ses assistants. Entre-temps, Tony et Simon avaient emmené le sacristain à l'écart. L'estomac retourné, Agatha jeta un dernier regard au visage que l'envol des mouches avait révélé.
« Il s'agit du policier disparu, » affirma-t-elle, « Larry Jensen. »
« On ne peut pas laisser le sacristain dans cet état, » fit Tony.
« Simon, j'ai un défibrillateur dans ma voiture. Tiens, je te donne les clés. Reviens vite. Pendant ce temps, je tente le bouche-à-bouche. »
En voyant la jeune fille coller ses lèvres aux lèvres cyanosées du sacristain, Agatha éprouva une admiration sans bornes, bientôt chassée par une vague brûlante de jalousie. Mrs. Bluxby venait de qualifier Tony de sainte. Et voilà que la journaliste du Mercer Telegraph, essuyant sa bouche sur sa jupe, dégainait son appareil pour la prendre en photo. La lueur du flash alla frapper une ouverture en ogive au fond de la crypte, illuminant comme un tableau vivant les cheveux blonds de Tony répandus sur le visage du sacristain. Une photo promise à la célébrité et qui assurait à Peggy un poste dans un journal national. Elle lui vaudrait aussi le surnom de « feu de paille », étant donné l'amateurisme de ses reportages suivants.
« Je sens le pouls !»
s'écria Tony. Trop excitée pour remâcher sa jalousie, Agatha interpella Simon qui dévalait les marches.
« Dépêchez-vous, il est toujours en vie !»
Au moment où les secours arrivèrent, le défibrillateur ramenait Harry parmi les vivants. Agatha, Mrs. Bluxby et les deux assistants patientèrent sur un banc près de la sortie pendant que l'orage se déchaînait au dehors. La pluie tomba à verse dans un fracas de tonnerre et la foudre fendit brutalement une des pierres tombales du cimetière. La vieille tombe qui portait l'inscription « Ici repose John Summer, attrapez-moi si vous pouvez, du diable je suis sauvé ». Tous les gens présents avaient déjà fait leur déposition à la police. Agatha rêvait d'une cigarette, mais elle avait laissé son paquet dans sa voiture. Lorsque Mrs. Bluxby félicita Tony Gilmore, elle se sentit obligée de confirmer.
« Vous avez été très courageuse, Tony. »«
La pluie se calme, » observa la jeune détective. « Je me sens un peu chamboulée, et puisque le pub est ouvert, je meurs d'envie d'aller boire un verre.
On va tous vous accompagner, » fit Agatha.
« Simon, allez prévenir la police qu'elle pourra nous trouver là-bas. Quelqu'un connaît le nom du pub ?»«
Le clocher, » indiqua Simon. « L'endroit est minuscule. »«
Bien, c'est parti alors. »«
Vous êtes sûre ?» intervint Mrs. Bluxby. Les journaux et la télévision ne vont pas tarder à débarquer.
Après tout, répliqua Agatha, je fonctionne comme n'importe quelle entreprise. Un peu de publicité ne fait jamais de mal.
Cependant, ils furent interceptés par Peter avant d'avoir pu atteindre le pub. Avec un sourire, il demanda à Agatha.
Vous pourriez me présenter votre fille, non?
Le regard glacial qu'elle lui renvoya l'alerta immédiatement sur sa méprise. L'évêque tenta de se rattraper en alléguant que la belle Agatha ne pouvait avoir qu'une fille ravissante, mais Tony abrégea avec un aimable sourire.
« Arrêtez de vous enfoncer, vous êtes déjà au fond du trou. Venez Agatha !»
Tout en s'éloignant, elle ajouta haut et fort de manière à être bien entendue.
« Il faut croire que ce bonhomme est aveugle. Encore un vieux pervers, je suppose. »
« Là, vous exagérez un peu.
Je dois avouer qu'il me fait peur, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. »
Mrs. Bluxby s'arrêta devant l'entrée du pub.
Je préférerais rentrer chez moi. Ce n'est pas si loin. Tony ou Simon pourraient peut-être me déposer.
Moi, je veux bien, proposa Tony.
Mais Simon objecta.
Il vaut mieux que je m'en charge. La presse va vouloir interviewer Tony.
Comme le pub servait des soupes et des sandwichs, elles décidèrent de déjeuner sur place. Agatha répondit aux questions de la presse locale et elle raconta plus tard à Simon qu'elle s'apprêtait à évoquer l'acte courageux de Tony lorsque deux envoyés de journaux nationaux avaient fait irruption dans la salle. L'un des deux avait crié sans préambule.
« Elle est où la superbe secouriste blonde ?»
Brusquement, Agatha ne comptait plus du tout. Peggy Comfort avait transmis au Daily News la photo de Tony en train de sauver Harry Bury et le journal l'avait revendue à qui voulait. Simon, de retour chez Mrs. Bluxby, relata la scène de la crypte tandis que les photographes se mêlaient aux reporters pour mitrailler sans relâche. À l'instant où Agatha allait proposer à son équipe de quitter les lieux, un grand escogriffe fit nonchalamment son entrée.
« Alors ça roule au Sun ?»
lui demanda un des journalistes. Agatha en conclut qu'il travaillait pour le quotidien et elle l'entendut en effet raconter qu'il s'était déplacé pour couvrir une affaire à Cheltenham et avait entendu parler de Sir Magna à la radio. Immobilisé sur le pas de la porte, il porta son regard sur Agatha. Il n'en fallait pas davantage. Un long regard appréciateur de ses yeux d'un vert éclatant. Et, pour la première fois de sa vie, elle tomba amoureuse dans la seconde. Les histoires précédentes avaient relevé de l'obsession, mais cette fois, c'était bel et bien l'amour, le vrai. Pourtant, Agatha n'avait jamais cru au coup de foudre. Et surtout, elle n'aurait jamais imaginé qu'il lui tomberait dessus parce qu'un grand échalas de journaliste, qui ressemblait beaucoup à Buster Keaton, avait posé les yeux sur elle. Enveloppée d'un brouhaha de voix, Tony enchaînait les interviews, en prenant bien soin de valoriser l'agence et sa directrice. Agatha flottait dans la bulle dorée de l'amour. Simon, pendant ce temps, l'observait du coin de l'œil. Le jeune homme appréciait Sir Charles, et il pensait qu'Agatha l'épouserait un jour ou l'autre. Ce type, du Sun, peut-être qu'elle l'avait déjà croisé par le passé. Il fut tiré de ses réflexions par les protestations de Tony, qui en avait assez d'être pris en photo. Lorsque Sky News et Midlands Television débarquèrent, la jeune fille se tourna vers Agatha pour quêter un soutien, mais sa patronne regardait dans le vague avec une expression rêveuse. L'arrivée des sœurs Dupin contribua à faire diversion. Agitant leurs sébiles en fer blanc, elles circulèrent dans le pub en claironnant « Pour la maison de retraite de l'abbaye !» Simon fut soulagé de voir Agatha se lever. Si vraiment elle avait craqué pour le type du Sun, elle ne serait jamais partie aussi tranquillement. « Vous voulez que je reste un peu ?» lui demanda-t-il. « D'après moi, Tony ne sera pas disponible d'ici un bon moment. Du coup, vous vous retrouvez tout seul. Mais tâchez quand même de savoir qui a aperçu Larry pour la dernière fois. Je suppose qu'il traînait dans le village pour récolter des ragots sur cette histoire de bondage et les fourguer à la presse. Normalement, le meurtre remonte à hier. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les mouches. Depuis sa disparition, il fait une chaleur épouvantable. On se serait attendu à le trouver grouillant de verre. Vous vous trompez, lui retourna Simon. Les asticots se transforment en mouches au bout de 5 jours en moyenne. Peu importe, coupa Agatha qui détestait qu'on la contredise. C'est moi qui ai raison. Les mouches pondent sur les cadavres, vous comprenez ? Elles pondent des œufs. Ensuite, les œufs deviennent des larves, parfois en moins d'une journée. Les asticots grossissent pendant 5 jours environ, puis la pupe se forme et enfin la mouche s'envole, comme moi en ce moment même. Où allez-vous comme ça ?
Je rentre rêvassée chez moi, lui aurait avoué Agatha si elle s'était montrée honnête. Mais elle préféra une autre version.
Je vais passer chez Mrs. Blugsby. À mon avis, c'est Mrs. Toms qui a déclenché tout ce grabuge.
Ce ne fut qu'aux abords de Carsley qu'Agatha ressentit le contre-coup de toutes ses émotions. Elle admit, non sans tristesse, que le fugace éblouissement de l'amour n'avait été qu'une défense bancale contre les horreurs qu'elle venait de voir. Elle tenait à s'assurer que Mrs. Blugsby allait bien. Lorsqu'elle arriva au presbytère, son amie semblait contrariée et agitée.
« Je suis vraiment égoïste, » fit-elle. « Mrs. Toms avait besoin que j'aille la soutenir, et je n'en suis pas capable. La police a découvert qu'elle était peut-être la dernière personne à avoir vu ce policier vivant, voyez-vous. Entrez, je vous en prie. Je vous sers un chéri ?
Oui, je veux bien. »
Agatha s'affala sur les vieux coussins de plumes du divan et se mit à contempler les flammes vacillantes dans la cheminée. Pourquoi Mrs. Blugsby allumait-elle le feu en plein été ? Les rayons du soleil entraient pourtant à flot, atténuant la clarté du foyer.
Ça venait sûrement du choc, conclut-elle. Ce qui s'était produit tout à l'heure avait de quoi glacer le sang.
Mrs. Blugsby ne tarda pas à la rejoindre avec 2 verres de sherry.
« Vous savez, dit-elle à Agatha, il y a des moments où on est obligé d'être égoïste. Si j'étais vraiment convaincue que Mrs. Toms a besoin d'aide, je me serais déplacée, bien évidemment. Mais quelque chose dans sa voix m'a laissé penser que tout ce cinéma lui plaisait bien dans le fond. Et Miss Gilmore, comment va-t-elle ? Nous aurions peut-être dû rester avec elle.
Ça va, Simon lui tient compagnie. Quoique, je doute que ce soit suffisant. Je vais appeler Patrick Mulligan pour qu'il veille sur elle.
Dès qu'elle eut téléphoné à Patrick, Mrs. Blugsby reprit.
C'est sûr surprenant que Sir Charles ne soit pas venu, non ?
Oh, il y a des jours avec et des jours sans, vous le connaissez ? De toute façon, il ne s'intéresse qu'à l'argent. Chaque fois qu'il disparaît, c'est pour courir après une héritière pleine aux as. Mais je parie que Roy Silver ne va pas tarder à se manifester.
Roy, cadre dans les relations publiques, avait été l'employé d'Agatha lorsqu'elle dirigeait son agence de communication. Il était chargé de la publicité pour sa clientèle, mais c'était avant tout sur lui-même qu'il rêvait de braquer les projecteurs. Grâce aux enquêtes d'Agatha, il avait eu plusieurs fois l'occasion de parler à la presse et d'apparaître à la télévision. Inclinant son verre, Agatha regarda les gouttes d'alcool ruisseler le long des parois.
Dites-moi, est-ce que vous croyez au coup de foudre ? Un seul regard échangé dans la foule et tout le baratin.
Tiens, j'ai dû rater quelque chose, se dit Mrs. Blacksby. Mais oui, naturellement, j'ai rencontré Alf au bal de printemps à Oxford et on ne s'est plus jamais quitté.
Et ils vécurent heureux pour toujours, c'est ça ?
Non, ça ne marche que dans les contes de fées. Dans la vie, le véritable amour ne se manifeste qu'après 2 ou 3 ans de mariage. La bienveillance, la tolérance, l'affection, vous voyez de quoi je parle.
Quelle barbe, songea Agatha. Pas de quoi sauter au plafond.
Il était au pub tout à l'heure,
s'enquit Mrs. Blacksby. Qui donc ?
Celui qui vous a mis dans la tête cette histoire de coup de foudre.
Les petits yeux bruns d'Agatha fixèrent un moment le papier peint fané, puis elle regarda les flammes avant de hausser les épaules.
Bon, il faut que je file. J'ai tendance à oublier que Julian me paye pour que j'éclaircisse cette affaire d'héritière disparue. Je devrais aller faire un tour chez les parents de Jennifer.
Il y a bel et bien quelqu'un,
pensa Mrs. Blacksby chagrinée.
Pauvre Charles. Mais peut-être qu'il s'en moquait finalement.
Agatha ne manquait certes pas d'argent, mais elle n'était pas assez riche pour un mercenaire de son acabit.
La grand-mère d'Agatha avait quitté son Écosse natale pour chercher un emploi dans une usine de Birmingham. Les gens des Highlands étaient connus pour avoir de l'intuition, et Agatha tenait peut-être de son aïeul. En tout cas, elle eut soudain la certitude que l'homme du peuple l'attendait en ce moment même devant son cottage. La puissance de ses émotions la remplit de frayeur. S'abandonner à un amour pareil, ça revenait à perdre tout contrôle. Elle récupéra sa voiture devant le presbytère et vérifia l'adresse de la famille Thunby. Ils habitaient une propriété appelée Les Hêtres, située à quelques kilomètres de Morton-in-Marsh. La première étoile du soir clignotait dans le ciel lorsqu'elle franchit la grille du domaine et s'engagea dans la petite allée. En descendant de voiture devant la maison d'Agatha, Charles découvrit un homme grand et mince appuyé contre le portail.
« Je peux savoir ce que vous voulez ?»«
Terry Fletcher, journaliste au Sun. » répondit l'autre d'un ton laconique. « Et vous ?»«
Charles Fraiss, qu'est-ce qui vous amène au juste ?»«
Je veux connaître la réaction de Mrs. Raisin. »«
À quel sujet ?»«
Mais d'où vous débarquez, vous ? Le cadavre dans la crypte de Sir Magna ? C'est là-dessus que je veux interroger Mrs. Raisin. »«
Je n'étais pas au courant, »
admit Charles, avant de tourner les talons pour déverrouiller la porte d'entrée. Terry le suivit des yeux quelques instants, puis il remonta en voiture et s'éloigna. Avec ses briques rouges, la maison des Toynbee ressemblait aux demeures typiques du Warwickshire, alors que celle des Cotswolds arborait la douce patine de leurs pierres jaunes dorées. Agatha frissonna malgré la tiédeur de l'atmosphère, regrettant de ne pas avoir pris un pull ou une veste. Une fois de plus, elle se persuada que c'était le choc qui avait déclenché ce raz-de-marée émotionnel devant le reporter du Sun. Elle appuya sur la sonnette, et une femme maigre en salopette de toile vint lui ouvrir la porte.
C'est pourquoi,
pommette haute et accent d'Europe de l'Est, Agatha en conclut qu'il s'agissait de la bonne.
Je pourrais voir monsieur ou madame Toynbee ? Lequel des deux vous cherchez ?
Peu importe, hein ?
Appuyée au montant de la porte, la femme pêcha un paquet de cigarettes dans sa poche, en alluma une et tira une bouffée avant d'adresser un sourire à Agatha. Celle-ci lui présenta sa carte professionnelle.
« S'il vous plaît, prévenez les Toynbee que je souhaite leur parler. Immédiatement !»
Une voix perçante retentit à l'intérieur.
« Gerda ! Qui est-ce qui vient de sonner ?»
Jetant son mégot dans l'allée, la dénommée Gerda tendit la carte d'Agatha à celle qui devait être Mrs. Toynbee.
« J'arrive pas à lire ce qui est écrit !» se plaignit cette dernière. « Suivez-moi plutôt au salon !»
Elle fit entrer Agatha dans une de ces pièces dénuées de caractère dont les décorateurs professionnels ont le secret. Les teintes dominantes étaient le vert et le marron.
« Ah !» fit-elle. « Alors vous travaillez dans cette branche. Tu as entendu, Arthur ?»
Une tête se pencha par-dessus le dossier d'un fauteuil habillé de soie verte.
« Tu parles d'une tapineuse ? Allons, arrête tes bêtises. C'est juste une détective privée. »«
C'est pas des bêtises. Gerda laisse entrer n'importe qui depuis quelque temps. Rappelle-toi le jour. »
Sa femme ne le laissa pas terminer.
« Je n'ai pas de temps à vous consacrer, » lança-t-elle à Agatha. « Quand notre petite fille a disparu, nous avons engagé des détectives, et ça n'a servi à rien. »
Mrs. Toynbee était toute petite, avec des cheveux châtains et filasses, que relevaient quelques mèches violettes. Sa figure, ronde, était tartinée de maquillage, sa bouche peinte en orange vif. Avec tout ça, on aurait dit un coucher de soleil barbouillé par un artiste du dimanche.
« J'aimerais savoir d'où ils tiennent leur fortune, » s'interrogea Agatha.
« Ces gens-là sont des parvenus, ils ne viennent pas de la haute. J'aurais mieux fait de me renseigner là-dessus au lieu de rivasser bêtement au coup de foudre. Je ferais honte aux féministes. Mais tant pis, j'ai envie de passer mes vieux jours entre les bras d'un homme. » Elle fournit quelques explications à Mrs. Toynbee. « J'enquête sur la disparition de votre fille. Quelqu'un m'a embauchée pour faire des recherches. »
« J'espère que vous ne comptez pas nous demander de l'argent. »
« Pas un centime, rassurez-vous. »
« Bon, asseyez-vous alors. Arthur, tourne-toi vers nous. Quelqu'un la paie déjà pour rechercher notre petite fille. »
Arthur Toynbee, qui regardait par la fenêtre, fit pivoter vers elle son fauteuil à roulettes. Il portait un foulard cravate et la veste en tweed la plus criarde qu'Agatha ait jamais vue. Mrs. Toynbee fit asseoir Agatha sur une simple chaise, puis s'installa face à elle dans un fauteuil.
« Gerda !»
La bonne s'avança nonchalamment.
« Vous nous servirez le café !»
lui commanda la maîtresse de maison.
« C'est ma soirée de congé, madame. »« Ok, fichez le camp si c'est ça. On va boire un verre à la place. Sauf vous, Mrs. Raisin, puisque vous reprenez le volant. Arthur, prépare-moi un scotch bien tassé. T'as qu'à bouger ton cul, feignasse. Non mais, comment tu me parles? J'y crois pas. Je te jure que tu vas me le payer. »
Mrs. Toynbee se dirigea vers la desserte à alcool où trônait un assortiment de bouteilles. Là, elle remplit un verre de scotch et alla directement le verser sur la tête de son mari. Arthur se frotta les yeux en crachotant, puis il bondit sur ses pieds et frappa sa femme en plein dans le nez. La laissant brailler tout son soûl, Agatha s'esquiva dans le hall avec son téléphone pour signaler à la police une affaire de violence conjugale. Après quoi, elle regagna sa voiture et alluma une cigarette. Une bonne demi-heure s'écoula avant l'arrivée des policiers.
« Si jamais il l'a assassinée, ne venez pas me le reprocher !»
récrimina Agatha.
« Pourquoi avez-vous mis tout ce temps ?»« Il y a eu un meurtre, un vrai !»
se justifia un des officiers.
« Dans ce village où ils ont découvert un cadavre dans la crypte. Là-bas, j'y étais en personne et j'ai fait une déposition. Allez, dépêchez-vous d'aller séparer ces deux-là !»
Agatha rentra chez elle rompue de fatigue. Aucun des deux Toynbee ne voulait porter plainte contre son conjoint et comme il n'y avait rien de cassé, la police n'avait pas cherché plus loin. Elle trouva Charles assoupi sur le canapé, les deux chats allongés sur lui. Après s'être servi un gin tonic, elle alluma son ordinateur portable pour lancer une recherche sur la famille Toynbee. Ils avaient dû faire fortune dans les installations sanitaires, supposait-elle, ou dans une branche tout aussi honteuse. Mais Agatha s'était trompée. Les grands-parents Toynbee étaient déjà des propriétaires fonciers, et ils s'étaient enrichis en faisant bâtir des cottages dans des villages, prévoyant l'essor de l'automobile et le développement du tourisme dans leur pittoresque région. Il était très probable qu'elle attire de nouveaux résidents, et l'avenir leur avait donné raison. La semaine précédente, un de leurs petits bijoux était parti pour la jolie somme de 500 000 livres. L'enquête s'annonçait délicate. Les parents de Jennifer étaient tellement loufoques qu'Agatha doutait de pouvoir leur soutirer une parole sensée. Quant à Peter Salver Hinckley, il savait forcément quelque chose. Le quotidien de Jennifer devait être assez éprouvant, avec des parents qui se tapaient dessus pour un oui ou pour un non. Et si l'évêque acceptait de parler, ce serait certainement à quelqu'un comme Charles.
Agatha le réveilla donc sur le champ. Les chats glissèrent sur le plancher avec un regard mécontent.
« Agatha, où étais-tu passée ?»
Elle poussa les jambes de Charles pour pouvoir s'asseoir sur le canapé. Après lui avoir résumé sa visite chez les Toynbee, elle lui proposa de sonder Peter sur la vie familiale de Jennifer. Charles l'avait laissé tomber et il lui devait bien un service.
« Arrête de me considérer comme un détective bénévole !» s'indigna son ami.
Agatha était fatiguée et déçue. Finalement, ce fameux coup de foudre n'avait été qu'une illusion. La plupart des reporters connaissaient son adresse et, s'il en avait eu envie, le journaliste aux yeux verts serait venu l'attendre à son domicile. Au bout du compte, il ne restait plus que Charles dans sa vie. Charles qui y allait et venait selon son caprice. Pas question de tolérer ça plus longtemps. « Charles, je te demande de me rendre mes clés. En d'autres termes, je veux reprendre possession de ma vie privée. Tu viens et tu repars quand ça te chante, et franchement, j'en ai ras-le-bol. » Ce n'était pas la première fois qu'Agatha réclamait ses clés, et en général, Charles s'arrangeait pour faire fabriquer un double du trousseau.
« Très bien, » lui dit-il. « Je reviendrai te voir quand tu seras de meilleure humeur. »
Lorsqu'elle entendit claquer la porte d'entrée, elle sut, pour la première fois de sa vie, ce que ça faisait d'être complètement seule. Bien sûr, elle avait déjà connu des moments de solitude, mais cela n'avait été qu'un sentiment passager. Cette fois, c'était différent. Dans sa tête et dans son corps, elle sentait peser la solitude totale des longues années à venir, et la sensation refusait de lâcher prise. Elle repoussa les chats qui tentaient de monter sur ses genoux.
« De toute façon, je ne suis jamais votre préférée. Fichez le camp, ou je vous transforme en chausson !»
Agatha frissonna, les bras serrés autour du corps. « Je suis sur le point de disjoncter, » se dit-elle. « Tout ça parce que je fantasme sur un homme aux yeux verts. Pauvre chat, il me reste un peu de foie d'agneau, je vais le leur faire cuire. » Elle n'eut pas le temps d'arriver à la cuisine, arrêtée en chemin par un coup de sonnette strident et énergique. Agatha ouvrit prudemment la porte. Une paire d'yeux verts plongea dans les siens.
« Je suis Terry Fletcher, journaliste au Sun, et vous êtes Agatha Raisin. Bon, on discute un moment ou on va directement au lit ?»
Charles avait décidé de retourner chez Agatha. Il se rendait compte à présent qu'elle semblait étrangement triste. Il tenait à lui annoncer qu'il voulait bien interroger l'évêque, mais lorsqu'il arriva dans Lyle Klein, un véhicule était déjà garé devant le cottage. Un macaron presse était collé sur la vitre de la voiture. Les rideaux du salon n'étaient pas complètement tirés et Charles eut envie de s'approcher en douce pour couler un regard à l'intérieur. Ce qu'il vit alors l'incita à reculer discrètement. Sans plus attendre, il alla toquer chez James Lacey qui habitait la maison voisine.
« Qu'est-ce qui se passe ?» s'étonna James. « J'étais sur le point d'aller me coucher. »«
C'est au sujet d'Agatha. » »«
Bon, entrez. » Qu'est-ce qu'elle a encore inventé, celle-là ?
Elle est tombée amoureuse.
Oh, elle était amoureuse de moi à une époque, et puis elle a cessé d'être sensible à mon charme. Charles, vous savez comment elle fonctionne. Il faut toujours qu'elle s'entiche de quelqu'un, et ça passe comme c'est venu.
Charles suivit James au salon et s'affala sur le canapé.
Je viens de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Il ne faisait rien. Il se regardait simplement dans les yeux d'un air enamouré. On aurait dit Tristan et Iseute. Elle, elle était carrément rayonnante.
Un instant, je vais vous servir un brandy. Ça ne va pas durer, ne vous inquiétez pas. Son instinct la pousse toujours vers les hommes un peu difficiles.
Vous, par exemple?
Oui, probablement. Dès qu'on a été mariés, j'ai voulu la transformer en épouse modèle. Du reste, rien ne vous empêchait de l'épouser vous-même. Tenez, Charles. Voici votre brandy.
On a plus ou moins parlé mariage, effectivement. Mais ça ne pourrait pas marcher. Vous imaginez Agatha présider une fête de charité?
Votre tante s'en charge déjà. Elle peut très bien continuer.
Et c'est compté sans Gustave, notre majordome. Il ne la supporte pas.
Si vous aimiez Agatha pour de bon, vous vous moqueriez éperdument de l'opinion de Gustave.
Elle m'a demandé de me renseigner sur l'évêque et l'héritière disparue, vous savez. Je vais m'en occuper.
Et qui est l'heureux élu, au fait?
Un journaliste, il semblerait. J'ai vu un macaron presse collé sur sa voiture.
Il est jeune?
Non, il doit avoir son âge, à peu près.
ce qui veut dire qu'il est marié. Ils le sont toujours, naturellement, du genre à laisser leur femme en province pendant qu'ils batifolent à Londres avec une infirmière. N'oubliez pas d'être présent quand il faudra ramasser les morceaux.
Les jours suivants, Agatha se sentit toute pétillante, comme si elle avait plongé dans une bouteille de champagne. Prétextant qu'elle n'était pas en forme, elle avait confié à Tony la responsabilité de l'agence et elle resta à la maison pendant que Terry repartait à la chasse aux informations. Terry Fletcher venait d'Australie et il lui avait promis de l'emmener avec lui d'ici quelques semaines pour lui faire rencontrer sa famille. Aux yeux d'Agatha, il ne faisait déjà plus qu'un. Fini la solitude, fini les complexes d'infériorité. Ce jour-là, Terry s'était rendu à Londres, mais il devait rentrer avant le soir. Elle songea vaguement qu'elle ferait mieux de mettre ce temps à profit pour avancer dans son enquête, mais un sentiment beaucoup plus merveilleux balaya ses bonnes intentions. Le plaisir d'attendre le retour de l'aimé. Vers 16h, Agatha se renfrogna en entendant sonner à sa porte. Elle n'avait pas la moindre envie d'être dérangée dans cette délicieuse attente. Le timbre retentit de nouveau, plus impérieux que la première fois. Agatha se sentit submergée par la joie. C'était sûrement Terry qui rentrait plus tôt que prévu. Mais en ouvrant la porte, elle découvrit à la place une inconnue, petite et blonde, qui demandait à lui parler.
« Vous êtes qui, vous ?» lui retourna Agatha.
« La femme de Terry. »«
Ah, je vois. Suivez-moi. »
Ses pensées se bousculaient dans sa tête. « J'ignorais que Terry était marié. Il est probablement en instance de divorce. »
Mrs. Fletcher l'accompagna au salon et quand elle se débarrassa de son manteau, Agatha n'en crut pas ses yeux. Elle avait un peu l'impression d'être tombée du 20e étage. Cette femme en était bien à 7 mois de grossesse.
« Vous attendez un enfant ?» articula-t-elle, la bouche transformée en bloc de glace.
« Oui, et ce sera notre 5e.
Je peux savoir ce qui vous amène chez moi ?»
Un des journalistes qui couvre l'affaire m'a appelé pour m'informer de ce qui se passait.
Agatha se laissa tomber sur un siège, luttant contre l'envie de pleurer. La gorge serrée, elle reprit d'une voix étranglée.
« Il y a eu des précédents ?»«
Oui, chaque fois que j'ai été enceinte. »
« Et vous lui avez pardonné ses infidélités ?»«
En règle générale, il s'explique tout seul avec ses maîtresses. Mais cette fois, il a refusé. Il prétend qu'il va vous emmener en Australie et demander le divorce. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. »
Agatha resta assise sans bouger, les mains sur les genoux, à contempler la ruine de la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée. Terry avait tout simplement menti par omission. S'il avait avoué qu'il était marié, elle n'aurait jamais accepté d'avoir une liaison avec lui.
« Je vous offre quelque chose à boire. Ne vous inquiétez pas. Je ne le verrai plus.
Vous pourriez me commander un taxi ?
Je vais vous conduire à la gare si vous voulez. »
« Non, Mrs. Raisin. » Vous comprendrez certainement que je ne veuille plus avoir affaire à vous. »
Agatha appela donc un taxi et elles patientèrent en silence pendant 10 minutes qui lui parurent une éternité. Dès que Mrs. Fletcher fut partie, elle prépara ses bagages. Ses mains étaient froides et comme engourdies. Après avoir déposé ses chats chez Doris Simpson, sa femme de ménage, elle roula jusqu'à Mercer et prit une chambre au George Hotel. Tout en défaisant sa valise, elle se demanda comment quelque chose d'aussi fabuleux, d'aussi vrai, avait pu n'être qu'un miroir aux alouettes. Il faudrait bien qu'elle pleure un jour, mais ce n'était pas le moment. Ce soir-là, Agatha dîna en solitaire. Elle était bien résolue à ne plus mettre les pieds dans ce maudit village de Sark Magna. C'était à croire qu'une présence maléfique hantait les lieux. Par ailleurs, il fallait absolument qu'elle se remette au travail. On la payait pour enquêter sur la disparition de Jennifer Toynbee, et l'entrevue avec ses parents n'avait mené à rien. Elle aurait mieux fait d'attendre la fin de leur dispute et de les questionner sur les fréquentations de leur fille. Sentant un regard posé sur elle, Agatha tourna la tête. Peter Salver Hinckley était attablé avec 2 dames d'un certain âge. Pour qu'il les amène au George, calcula-t-elle, ces 2-là doivent avoir un sacré paquet d'argent. L'évêque glissa quelques mots à ses compagnes avant de la rejoindre à sa table.
« En voilà un qui a le cuir épais », pensa Agatha en le voyant venir. « À force, il a bien dû remarquer que je ne l'aimais pas. Mais je suppose qu'il n'a pas si mauvais fond. puisqu'il se met en quatre pour financer cette maison de retraite. Toujours aussi ravissante, la complimenta Peter en s'asseyant près d'elle.
Mais je vois du chagrin dans vos yeux.
Ne soyez pas absurde, le rabroie Agatha. On m'a chargée d'enquêter sur la disparition de Jennifer. Vous avez un conseil à me donner ?
En effet, oui,
rétorqua Peter en se levant. Mêlez-vous de vos affaires ou vous risquez fort de le regretter.
Je dois prendre ça pour une menace ?
Lui cria Agatha. Sous le regard curieux des autres clients, l'évêque rougit et se pencha vers elle. Pour une fois, faites marcher votre cervelle, ma chère.
Intéressant, raisonna Agatha.
Si Peter n'a rien à se reprocher, je ne vois pas pourquoi il a cherché à m'intimider. Il lui suffisait de me répondre qu'il n'avait pas le moindre indice. Une vague de chagrin la frappa de plein fouet lorsqu'elle repensa à Terry. Il n'aurait jamais dû lui cacher qu'il était marié. Tout allait pourtant si bien. Elle aurait pu croire que les poèmes et les chansons d'amour avaient été écrits exprès pour elle. Brusquement, elle eut une pensée pour Charles. Elle avait eu tort de le renvoyer chez lui. Il aurait pu lui remonter le moral. Au même moment, Charles avait lui aussi besoin de réconfort. Son employé multicasquette, le fameux Gustave, était en train de ranger les documents comptables.
« Vous n'avez pas de fichier informatique ?»
s'étonna Charles.
« Si, mais je garde aussi un double sur papier. Monsieur, vous êtes passé méchamment dans le rouge. J'ai bien peur qu'il vous faille épouser Penelope Worth. »
« Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'elle voudra de moi ?»«
Oh, elle se contenterait de n'importe qui. La pauvre fille est vilaine comme tout. Le derrière d'une vache est plus gracieux que sa figure. »
Dès que Gustave fut sorti, Charles décida de soumettre ses problèmes à Agatha. Ne la trouvant pas à Carsley, il réussit à manœuvrer Doris Simpson pour obtenir l'adresse de l'hôtel où elle était descendue. En arrivant au George, à Manchester, il trouva Agatha en train de ruminer devant un café noir. Elle le dévisagea sans un mot et il soutint le regard de ses petits yeux d'ours.
« Quel salopard !» se dit-il. « J'ai envie de le tuer. Est-ce que je dois aborder le sujet ?»« Non. Mauvaise idée. »« J'ai besoin de ton aide, Aggie, »
fit-il en s'asseyant près d'elle.
« Je suis à court d'argent. Non, je ne te demande pas de m'en fournir. Je veux seulement savoir si tu as des conseils à me donner. »«
Vends des terres à un promoteur, ça rapporte énormément. » »«
Impossible. » Ce sont des parcelles agricoles. À entendre Gustave, le mariage est ma dernière planche de salut. Et la mariée est une horreur.
Ne fais pas ça !
Coupa Agatha avec colère.
Pardon ?
Condamner une femme sur des critères physiques. Les hommes me dégoûtent si tu veux savoir.
Et elle adressa un signe au serveur.
Un double bandit.
J'en prendrai un moi aussi, avec un café.
Et tu comptes payer ta part ?
Mais oui, mon ange. « Je réglerai même le tout pourvu que tu trouves une astuce pour me sortir du rouge. »«
Et le circuit manoir hanté ? Pourquoi tu n'as pas continué les visites ?»«
Un canard régional a dénoncé tout notre cage. »«
Je te vois cramponné à ton ordinateur. Montre-moi donc l'étendue du désastre. »
Ils burent du brandy et du café, Agatha renouvelant les commandes sans même réfléchir.
« Ah, je vois que tu as misé sur des actions pourries !» Tu avais pourtant un conseiller fiable à une époque. Qu'est-ce qu'il est devenu ?
Un de mes amis au club m'a raconté que Forsythe et Williams lui faisaient gagner des millions.
Du coup, tu t'es empressé de leur donner carte blanche.
S'il te plaît, évite d'en rajouter.
Et il croyait encore que la bulle Internet était l'Eldorado, j'imagine.
Bien, on ira à Londres dès demain pour confier tout ça à mon conseiller.
Ensuite, on va te dégoter une espèce de pré-relais le temps que tu te renfloues un peu. Mais en échange, tu devras travailler pour moi.
Avec les parents de Jennifer, je suis complètement larguée. Et j'ai l'impression que toi, tu pourrais en tirer quelque chose. Marché conclu ?
Ok. Mince, voici les ennuis qui débarquent.
Agatha n'eut même pas besoin de regarder. Elle savait déjà qu'il s'agissait de Terry.
Il faut que je te parle, lui dit-il d'un ton pressant.
Laisse-moi, répondit-elle d'une petite voix.
« Rentre chez toi et occupe-toi de ta femme. Ne t'approche plus de moi et ne m'adresse plus la parole. »«
Faites comme si je n'étais pas là, surtout, » glissa Charles.
« Agatha, je vais demander le divorce. Va-t'en, s'il te plaît !»
répéta Agatha d'un ton là.
« Tu as une famille sous ta responsabilité. Allez, fiche le camp !»
Je peux vous aider, peut-être ?
Le trio posa un regard stupéfait sur Peter Salver-Hinckley. Il leur souriait d'un air bienveillant, mais une curiosité avide se lisait dans ses yeux.
Avec tout ça, se disait-il, cette Agatha Raisin devait être un sacré bon coup.
Charles lui jeta un regard médusé.
« Alors là, Peter, vous vous surpassez.
Ça vous arrive souvent de vous incruster comme ça ?»«
Chaque fois que j'estime que mes ouailles ont besoin d'un guide. »«
Vous débloquez complètement !» lâcha Agatha en le fixant sévèrement. « Je monte me coucher. Vous êtes tous cinglés !»
Terry lui attrapa le bras pour l'empêcher de se lever. Et Agatha, mise en rage par ses déconvenues amoureuses, lui expédia un grand coup de poing dans le nez avant d'éclater en sanglots. Charles l'entraîna aussitôt vers l'ascenseur.
Non, ne dis rien, je ne veux pas savoir. Tiens, voici un mouchoir.
Pas question que tu dormes dans mon lit.
Si, justement, dormir et rien d'autre. Comme ça, on pourra partir à Londres de bon matin.
Agatha commença par se déshabiller pour passer sous la douche. Tandis que l'eau chaude se mêlait à ses larmes, elle se demanda encore une fois comment cette sublime histoire d'amour avait pu tourner au vinaigre. Quand elle se fut mise au lit, Charles se coucha près d'elle et s'endormit après un rapide « bonne nuit ». La nouvelle était tombée trop tard pour figurer en bonne place dans le Merseyster Telegraph. Mais un entrefilet signalait tout de même que Terence Fletcher, journaliste de son état, venait d'être arrêté pour avoir agressé l'évêque de Merseyster. Le temps était gris et humide, tout à fait en accord avec le moral en berne d'Agatha. De temps à autre, elle s'interrogeait sur le meurtre du policier Larry Johnson. C'était quand même un peu étrange que tout le monde se soit désintéressé de lui. Apparemment, on l'avait frappé au crâne avec un marteau ou autre objet contondant. Après tout, ce n'était pas son affaire à elle. La police n'avait qu'à s'en charger. Après s'être occupée avec toute l'efficacité possible des finances de Charles, Agatha rappela à son amie qu'il s'était engagé à interroger les parents de Jennifer Toynbee. Tant qu'elle restait loin de Sark Magna et qu'elle se focalisait sur la disparition de l'héritière, elle se sentait capable de surmonter petit à petit sa déception amoureuse. Elle ignorait à ce moment-là que l'orage couvait à Sark Magna et que la colère générale se concentrait sur Millicent Dupin.